Chers frères et sœurs, ne prenez pas garde à l'apparence. Voilà le conseil donné par l'Éternel à Samuel au verset 7. Ne prends pas garde à son apparence, à sa haute taille. Voilà ce qui est dit au sujet d'Éliab, qui a les caractéristiques de Saül, celui qui occupe alors la fonction de roi d'Israël, et donc il a été précisé au chapitre 9 que c'était un homme d'élite, plus beau qu'aucun Israélite, les dépassant tous de la tête. On peut en dire à l'Éternel qu'il a rejeté Éliab. Il n'est pas impossible que le rédacteur de ce passage biblique indique une fois de plus le rejet de Saül, premier messie d'Israël, celui qui avait reçu l'onction un peu plus tôt. Mais intéressons-nous aussi à la façon dont les choses sont dites en hébreu. On pourrait traduire par « ne regarde pas ce qui est à voir » ou, pour être encore plus simple, « ne regarde pas le visible ». Chers frères et sœurs, ne prenons pas garde à l'apparence et cessons de ne regarder que le visible. En tout cas, n'accordons pas une valeur supérieure à l'apparence. Ne faisons pas de l'apparence le critère à partir duquel nous forgerons notre jugement. Mieux que cela, méfions-nous des apparences, qui ne sont pas toujours trompeuses, mais qui ne constitue jamais le critère décisif pour découvrir la vérité d'une personne, d'une chose ou d'une situation. Et commençons par nous méfier de la Bible elle-même. Ne prenons pas garde à l'apparence du texte biblique au sens de « ne nous contentons pas de regarder ce qui est visible » dans le texte biblique. Méfions-nous des apparences qui pourraient nous tenir lieu de vérité. Commençons par la première affirmation que contient ce passage que je vous ai lu. C'est au verset 35. Il est stipulé que Samuel ne vit plus Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil de Saül. Cela est sans doute assez cohérent. Saül n'a pas respecté les consignes, il a été rejeté par Dieu. Il est donc tout à fait cohérent que Samuel, le prophète de Dieu, rejette lui-même Saül, qu'il coupe tous les ponts et qu'il n'en entend plus parler, qu'il ne le voit plus. Nous entendons là une affirmation forte du rejet de Saül, un rejet tellement fort que le prophète de l'Éternel lui-même coupe toute relation, ce qui indique bien le rejet massif, la chute totale de Saül. C'est fort, mais c'est à tort. Car, en fait, si nous continuons à lire le livre de Samuel et que nous allons jusqu'au chapitre 19, alors nous constaterons que Samuel reverra Saül. Et pas qu'un peu, parce qu'au verset 24 du chapitre 19, il est dit que Saül retira ses vêtements et prophétisa devant Samuel pendant tout un jour et toute une nuit. Autrement dit, il l'a vu et bien vu. Nous avons ici ce qui pourrait apparaître comme une contradiction flagrante entre ce qui est déclaré à trois chapitres d'intervalle. Je conçois que cela peut être troublant. Je conçois que cela peut nous conduire à déconsidérer le texte biblique et que cela peut parfois nous éloigner de la Bible qui, si elle contient de telles contradictions, pourrait laisser penser qu'elle n'a rien à nous apprendre qui soit vrai. Et bien, il me semble que ce petit constat, par exemple, nous enseigne surtout qu'il faut se méfier des apparences. Il faut se méfier d'un texte qui a l'apparence d'une histoire sainte qui se serait déroulée telle que c'est écrit dans le grand livre. Cela nous enseigne apporter un regard critique sur le texte. Et par critique, il ne s'agit pas de condamner, de rejeter, mais de juger. Critiquer, c'est juger. C'est faire ressortir la vérité. Juger le texte biblique, c'est critiquer, c'est faire ressortir la vérité dont le texte biblique est porteur. C'est lui permettre d'offrir la vérité dont il dispose, et non pas la vérité qui nous arrangerait bien et que nous voudrions lui faire dire. Il y a quelque chose d'extrêmement salutaire à avoir un regard critique sur le texte biblique. C'est que nous laissons le texte biblique nous offrir le sens qu'il contient. Et ce sens, c'est ce que les générations de chrétiens ont reconnu comme autorité, comme source d'une parole qui nous aide à vivre et à mieux nous comprendre. C'est cette parole-là qui fait sens, pas celle que nous voudrions lui infliger. En se méfiant de l'apparence du texte biblique, nous évitons de faire de la Bible une sorte de dictée divine, comme peut l'être considéré par exemple le courant dans certains, comme le Coran, dans certains courants de l'islam. En se méfiant de l'apparence, en interrogeant sérieusement les textes, en les mettant en vis-à-vis, en évitant le massacre à la tronçonneuse, qui consiste à sortir un passage de son contexte, à isoler un verset biblique, et parfois à le retourner contre le texte. Et là, nous évitons de faire de la Bible une vérité hors sol. Et nous permettons au texte biblique de nous offrir la vérité dont il est dépositaire. Et cette vérité, c'est l'expérience d'hommes et de femmes aux prises avec la vie et animés d'un profond désir de porter cette vie à son plus haut degré de réalisation. La Bible n'a pas été écrite par une, deux, trois ou quatre personnes, mais par une multitude de personnes aux prises avec la vie. Et la richesse de la Bible, c'est qu'il y a justement plusieurs expériences qui viennent se tisser les unes avec les autres. Et le fait qu'il y ait, au sein même de ce livre Samuel, plusieurs rédacteurs qui n'ont pas forcément eu la même expérience, qui ne rendent pas compte de la même manière de l'espérance qui les a nourris, ou au contraire, des désillusions qui ont fracassé des vérités qu'ils tenaient pour des certitudes et qui en fait n'étaient que des faits du pareil. Le fait qu'il y ait ces contradictions apparentes ne dénature pas la Bible, ne diminue pas son degré de vérité, bien au contraire. Cela complexifie notre rapport à la vie. Cela enrichit notre compréhension de l'existence. Imaginons que nous décidions de vous crever chacun un œil. Il paraît que c'est la mode ces temps-ci. Vous ne verriez plus la vie en relief. Il y aurait une sorte de platitude. C'est ce que constatent celles et ceux qui justement perdent l'usage d'un œil. Avoir deux yeux, c'est ce qui permet de donner du relief, de la profondeur. C'est ce qui permet de hiérarchiser, de ne pas tout mettre sur le même plan et de pouvoir accorder une valeur supérieure à ce qui est fondamental. Voilà ce que cette rédaction plurielle de la Bible nous permet. Petit conseil de ces personnes qui font de la théologie et qui s'adressent à nous qui voulons également faire de la théologie, c'est-à-dire s'interroger sur le sens profond de la vie. Ne prenez pas garde aux apparences. Ne regardez pas simplement ce qui est visible. Ce n'est pas parce que cela a l'allure du sacré que c'est du sacré. Et par exemple, je pourrais vous interroger pour voir si vous avez exercé votre faculté de jugement, votre capacité critique, lorsque tout à l'heure vous avez chanté le psaume 134. Y a-t-il un problème que vous avez relevé en chantant le psaume 134? Ah, si j'étais pasteur au 19e siècle, je ferais quelque chose comme « Ah, vous êtes de bien piètre, paroissien, engeance de vipère !» cette troisième strophe que nous avons chantée ne peut pas être issue du psaume 134. Imagine-t-on un psaume, un texte de la Bible hébraïque qui contient la mention du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette construction théologique qui date du 4e siècle de notre ère, comment pourrait-elle se trouver dans un psaume? Méfiez-vous des apparences. Ce n'est pas parce que cela a l'allure du sacré que c'est du sacré. Retournons au 8e siècle. Après nous être interrogés sur le texte biblique, ce passage nous permet de nous interroger aussi sur le Messie en hébreu, le Christ en grec. Cela est rendu possible par ce passage en revue de la famille de Jessé. Là encore, si nous prenons le soin de ne pas nous en tenir aux apparences, il se pourrait que nous découvrions une vérité autrement plus profonde que ce à quoi nous sommes habitués. Traditionnellement, nous voyons en David le plus jeune fils de Jessé. Quelqu'un dira-t-il le contraire? Si c'est le cas, qu'il se lève ou qu'il se pèse à jamais. David, comme le plus jeune fils qui va recevoir l'onction et devenir plus tard la figure de référence d'Israël. Eh bien, moi, je trouve que cela est loin d'être évident. Quand nous regardons le texte biblique avec un œil critique, nous constatons qu'il y a quand même un sérieux problème autour de la figure de David dans ce passage biblique. Et je le dis avec crainte et tremblement en présence du professeur dans un testament de notre faculté de théologie. Peut-être qu'il me reste crucifié à la fin de la prédication, mais je me lance. Il y a un vrai problème que nos traductions ont parfois estompé d'ailleurs. J'ai pris cette traduction de Louis II, version 1978, qui me semble la plus proche du texte hébreu. Mais bien souvent, il y a des variations auxquelles je vous rendrai peut-être attentif. Quels sont les problèmes que nous pouvons soulever à la lecture de ce passage biblique? Tout d'abord, reprenons un peu l'histoire. Samuel passe en revue les fils de Jessé, et à chaque fois, l'Éternel indique que ce n'est pas celui-là qui a été choisi par Dieu. Au bout du compte, le verset 10 déclare « Jessé fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Jessé, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Et là, vous vous dites, dans ce cas-là, c'est pas un fils de Jessé qui sera roi par Samuel. Sauf que vous dites aussi, mais David, il a quand même bien été roi par Samuel. Et David, c'est bien le fils de Jessé. C'est là où les traductions des fois sont un petit peu curieuses. Plutôt que de traduire « il fit passer ses 7 fils », quelques traductions arrangées de Louis II disent « Jessé fit passer 7 de ses fils ». Sous-entendu, il y avait une 8e qui traînait. Mais le livre des Chroniques, qui nous offre un passage parallèle, nous dit que Jessé n'avait que 7 fils. Ça ne nous simplifie pas forcément la vie, parce que dans les 7 fils, il y a notamment David. Un peu le bazar, quand même, des fois, le texte biblique. Il faut être conscient que le livre des Chroniques idéalise la figure de David. Par exemple, dans le livre des Chroniques, il n'est pas fait mention de l'épisode Bethsabée, ni du meurtre commandité par David au sujet de l'époux de Bethsabée, le fameux Uri. Autrement dit, le livre des Chroniques a plutôt tendance à arranger les choses pour David. Le livre de Samuel, lui, n'estompe pas cela, et garde toutes les aspérités. Jessé a 7 fils, et manifestement, David n'en fait pas partie. Et cela est corroboré par la suite. Je continue. Au moment où Samuel demande si, grosso modo, c'est là l'ensemble de la famille de Jessé, certaines traductions disent « Mais n'as-tu pas un autre fils ?» Dans les mots, ce n'est pas le mot ben, fils, c'est le mot nar, qu'on pourrait traduire par jeune homme. N'y a-t-il pas un autre jeune homme? Et là, Effectivement, Jessé répond, ah ben, il y a le petit qui fait battre le troupeau. On est beau de 4 hommes. C'est le petit. Certaines traductions disent le plus jeune. Sous-entendu, le dernier. Mais ce n'est pas cette qualité-là qui est exprimée dans le texte biblique. Le petit, c'est une question de taille. Souvenons-nous qu'Éliab était de haute taille. Cela signifie qu'en principe, tous les frères devaient être un peu grands. David, lui, est petit. Sur le plan physiologique, ça pose quand même question. Nous savons qu'un David qui est petit, alors que la grande taille devrait être la caractéristique de la fratrie. Nous avons un David qui n'est pas compté dans les 7 fils de Jessé. Et nous allons apprendre en verset 12 ce qui est une caractéristique qui a priori ne doit pas être non plus vraiment partagée avec les autres fils de Jessé, sans quoi cela ne mériterait pas d'être souligné. Il est roux. Nous avons été habitués à penser David comme le plus jeune fils de Jessé. Ce passage biblique nous engage plutôt sur l'hypothèse que David n'est pas le fils de Jessé comme le sont les autres fils de Jessé. Il ne serait pas inutile pour quelqu'un qui voudrait pousser l'investigation un peu plus loin de s'interroger sur le sens de la prière de David dans le psaume 51, après sa relation adultérine avec Bathsabée justement. En particulier le verset 7, où il dit ceci, voici ce qui est mis dans la bouche de David, « Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il y a là manifestement une sorte de réminiscence d'un adultère qui indique qu'il faut prendre garde aux apparences, aussi pour ce qui concerne la filiation de David. Il se pourrait que ce ne soit pas aussi évident que cela. Et voyez-vous que le texte biblique contienne cette hypothèse forte, indique qu'il ne faut pas prendre garde aux apparences, qu'il ne faut pas se contenter du visible. Comme le rédacteur de ce passage du livre de Samuel l'écrit bien avant Saint-Exupéry, on pourrait considérer qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. Autrement dit, peu importe ce qui est visible, peu importe ce qui est lisible, peu importe ce que vous lisez dans un compte-rendu d'ADN, peu importe ce qui est consigné sur des registres d'état civil, de baptême, peu importe ce qui est consigné dans des rapports, dans des fichiers, notre identité est bien au-delà des définitions ou des catégories que nous inventons et qui ne permettent jamais de dire ce qu'est vraiment quelqu'un. La Bible témoigne de la grâce de Dieu qui consiste toujours à ajouter des enfants aux enfants déjà présents. Cette caractéristique se trouve vraiment dans toute la Bible. Pensons aux derniers instants de Jésus. Il est sur la croix. Au pied se trouve Marie, sa mère. Et que fait-il? Il dit, le fils qui est là, ce n'est pas ton fils. Il ne le dit pas comme ça, c'est le disciple bien-aimé. Eh bien, femme, voici ton fils. Et toi, voici ta mère. Ce n'est pas un rapport biologique qui est en jeu, mais c'est un vrai rapport de filiation qui vaut bien plus que le biologique, qui vaut bien plus que le visible. Il y a une invitation à relativiser les réputations sociales également, comme le fera Joseph à qui le messager de Dieu, Gabriel, annonce que la paternité de Jésus n'est pas évidente, elle non plus. Que sa filiation n'a rien de clair. Mais que cet enfant n'aura pas moins un avenir un peu plus estimable. On peut même se dire que finalement, dans cette grande généalogie qui va jusqu'à Jésus, la question de la filiation ne correspond vraiment pas à la clarté sociale, conventionnelle, que nous voudrions avoir parfois une sorte de pureté biologique. De façon générale, ce critère-là n'est pas décisif pour dire la valeur d'une personne. Ainsi, frères et sœurs, méfions-nous de ce qui a l'allure du Messie. Ce qui a l'allure du Messie, ce n'est pas ce qui frappe les yeux, ce n'est pas ce qui est immédiatement visible. Le Messie dans la Bible n'est pas normé. Il peut tout aussi bien dépasser tout le monde de la tête qu'être petit. Il peut être le fils de son père ou avoir une filiation que d'aucuns qualifieraient de bâtard. Et cela est important dans l'autre sens. Ce n'est pas parce qu'on a une figure de criminel qu'on est forcément criminel. Bientôt, sur les écrans, passera cette reconstitution du procès de Jacques Viguier, accusé d'avoir massacré sa femme. Et finalement, aux assises, il sera innocenté, alors qu'il y a vraiment la figure du psychopathe. Méfions-nous des apparences. Méfions-nous de ce qui est visible. Cela ne dit jamais la vérité profonde d'une personne. La liberté biblique à l'égard des hommes s'observe également dans un trait de David que nous avons déjà relevé, le fait qu'il était roux. La même chose avait été dite au sujet d'Ésaü. Ce détail est important car il montre que dans la Bible, l'histoire n'est pas condamnée à se répéter en fonction de ce qui est visible. Il n'y a pas de répétition des formes. Ésaü était le frère jumeau aîné de Jacob, tous deux fils d'Isaac. Ésaü était l'aîné, il a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob, et c'est donc son frère Jacob qui a fait histoire et qui a prolongé la promesse faite autrefois à Abraham. David est l'un des descendants de Jacob. Cela montre qu'on peut être fils d'eux, petit-fils d'eux, arrière-petit-fils d'eux, sans pour autant être condamné à répéter le passé. Et Ésaü le roux a manqué le coche de l'histoire. David le roux, lui, ne passera pas à côté de sa vocation. Ésaü le roux a vendu son droit d'aînesse. David le roux, lui, hérite d'un droit qu'il n'aurait pas eu en principe, selon la codification en vigueur dans nos droits. Cela indique que nous avons toujours la liberté de donner de nouvelles impulsions à l'histoire, même lorsque l'histoire semble bégayer. Il est toujours possible d'injecter de la nouveauté dans une histoire qui semble irrésistiblement conforme à ce qu'elle a toujours été. Encore faut-il voir ce qu'il est possible d'injecter. Et pour cela, ne pas arrêter son regard sur ce qui est visible, mais s'ouvrir à l'invisible. Et ça, c'est ce dont la foi nous manque à part. Parce que si nous ne regardons que ce qui est visible, alors nous ne regardons que ce qui est ou ce qui a été. S'intéresser à l'invisible, c'est s'intéresser aussi à ce qui peut être. Et je reprends volontiers le titre de l'exposition d'œuvre d'Alexandre Holan, actuellement visible au Musée Fabre. L'invisible et le visible, le verbe être. Ce qui est visible, c'est l'invisible. Et je reprends son expérience fondatrice dans les années 80, qu'il restitue ainsi, je cite, « Je me souviens, après 3 jours de dessin devant un grand platane, l'image du monde s'est inversée. L'arbre a disparu, et le vide au milieu des feuillages est devenu une réalité tangible. À partir de ce jour-là, le blanc du papier est devenu très important. La rupture entre la forme et le blanc produisait une double image. Parfois, c'est seulement le blanc qui existait. Parfois, seulement les taches. Voilà une expérience que nous avons certainement toutes et tous fait une fois dans notre vie. Regardez un dessin, par exemple un dessin en 2 couleurs, rouge et blanc, pour reprendre un peu cette grande affiche de balade. Nous nous intéressons évidemment à la couleur, à ce qui est rouge par exemple, cela nous saute aux yeux. Mais à force de regarder et de nous laisser emporter dans l'œuvre, alors il se peut que notre attention se fixe plutôt sur le blanc et que nous découvrions une autre image. Une image peut-être plus profonde, la structure de l'image. Pour reprendre la figure de l'arbre, ce qui tient l'arbre, la tension entre les branches, la tension entre les feuilles, ce qui nous tient. C'est comme lorsque nous regardons une communauté d'hommes et de femmes. Nous pouvons regarder les individus qui la composent, mais nous pouvons aussi être sensibles à ce qui tient les uns et les autres ensemble, à ce qui les lie, à ce qui les tend les uns vers les autres. Et cela n'est pas visible, mais cela est pourtant. L'invisible est ce qui est à voir. C'est cela dont il convient de prendre garde. Car précisément, la vie n'est pas visible à l'œil nu. La vie est invisible. La vie, quand on y pense, ce n'est pas nos molécules qui sont en agitation dans notre corps. Ce n'est pas les globules rouges qui circulent dans notre sang. Ce n'est pas ce qui pourrait être visible sous un microscope futile électronique. La vie, notre vie, c'est ce qui relie tout ce qui constitue notre histoire, tout ce qui constitue notre quotidien, tout ce qui relie et qui fait sens. C'est cela la vie. La vie, du coup, n'est pas visible à l'œil nu. On ne peut pas prendre un scalpel, ouvrir et voir comment ça se passe à l'intérieur et dire « ça, c'est la vie ». La vie n'est pas visible à l'œil nu, car la qualité de vie ne s'affiche jamais comme peut s'afficher notre poids sur un pèse-personne. La relation de Samuel à l'Éternel, ce que nous nommons la foi, voilà ce qui permet de voir l'invisible. À chaque fois qu'un fils de Jessé passe devant Samuel, Samuel est capable de dire s'il recevra ou non l'onction. C'est une manière de dire que Samuel est rendu capable de pouvoir apprécier cette partie non visible de l'être et qui est pourtant si importante, parce que c'est sa véritable identité, sa vraie valeur, son essence. Cela suppose de renverser les images. Cela suppose de ne pas arrêter notre regard sur les apparences, sur le visible. La foi, la relation à Dieu qui donne à l'humanité sa véritable mesure, voilà ce qui nous permet de reconnaître ce qu'il y a d'infiniment vivable chez quelqu'un. Et c'est cela que nous essayons de célébrer. C'est cela que nous essayons de révéler. L'invisible et le visible. Voilà notre programme d'être biblique. C'est ce que Samuel fit valoir. Eh bien, c'est maintenant notre propre programme. Bonne route. Amen.